va commencer tout de suite. Tout de suite. Nadine, en premier. Voilà.
J'en sais rien.
Alors, elle va nous parler du fin mot de l'histoire. Et elle s'est permis d'écrire histoire avec un Y. Ce qui est une tradition chez nous.
Bon. Alors, ça va, on entend ? Alors, en tant qu'analysante, je ne me suis jamais posé la question de la durée de mon analyse, ni son côté interminable. J'avais en tête qu'une analyse avait un début et une fin. Si cette idée était présente, c'est que je pensais qu'il y avait quelque chose à dénouer. Et je supposais qu'une psychanalyse s'était faite pour ça, pour résoudre un problème, et surtout pour résoudre ce qui venait faire énigme. C'est ça qui m'a alertée et qui est venu recouvrir le temps chronologique. Le sujet peut prendre ainsi son temps pour chercher les raisons de son symptôme. Il croit naïvement à l'impact de son histoire et au pouvoir des mots pour que ça ne grince plus. Mais l'analyse porte un coup à cette idéalisation. D'ailleurs, dans la cure, le sujet ne reprend-il pas son histoire par morceaux choisis, reconstruits ? Freud en avait déjà montré la voie avec le roman familial. L'histoire dans une psychanalyse n'est qu'un patchwork, un mythe, c'est pourtant un tremplin. Dans les méandres de la cure, l'analysant cherche donc à avoir raison de ce qu'il taraude. Mais il se cogne à un mur. En 1937, 2 ans avant la fin de sa vie, Sigmund Freud aborde la question de la durée des analyses en l'articulant à celle de la fin de la cure. En se demandant comment l'accélérer, il bute lui aussi sur un impossible, analyser. Il constate qu'il se trouve devant une impasse puissante et indomptable. La revendication pulsionnelle de l'analyser. Et ce qui donnerait du mal à l'analyste concerne une butée en lien avec la différence des sexes. L'envie du pénis pour la femme et chez l'homme, la rébellion contre sa position passive ou féminine envers un autre homme. Cet impossible qu'identifie Freud est bien le maître mot d'une analyse, mais pas là où il le soupçonne. Lacan, au fil de son élaboration, va mettre en tension l'impossible et le réel et énonce dans l'envers de la psychanalyse que le réel, c'est l'impossible. L'obstacle que va donc rencontrer l'analysant n'est pas une simple butée nouée à l'histoire, au sexuel et aux symptômes, mais relève d'une impasse logique, un mur qui n'est autre que celui du langage. Au roc de la castration freudienne vient répondre un impossible de structure, il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est ça qui fait souffrir le sujet. En effet, celui qui vient au monde prend être de la parole, écrit Lacan. Ce qui a pour conséquence qu'il existerait une solidarité entre le non-rapport des sexes et le fait qu'un être soit parlant. Il me semble que c'est dans ce cœur qu'il faut saisir les raisons de la durée des analyses et ce pourquoi l'analyse peut se conclure. D'ailleurs, Lacan affirmera en 1974 « La psychanalyse est le règne de la parole. Elle est sa grande force. » Ce qui veut dire que convoquer la parole dans une cure interroge ce qui s'est joué chez l'être parlant, c'est-à-dire son exil du rapport sexuel. Et d'en prendre acte peut avoir un impact. D'ailleurs, c'est bien l'analysant, celui qui parle, qui fait le vrai travail dans le dispositif analytique. Et si le sujet a choisi de traiter son symptôme par la parole, c'est que son être s'est noué, se serait mal noué dans sa rencontre, croit-il, avec les autres de son histoire, et quelque chose ne passe pas. Il a donc l'idée, bien que confuse, que c'est par la parole que ça peut passer. C'est pourquoi il s'adresse à quelqu'un à qui il suppose un savoir, à un qui sait quelque chose sur la vérité des symptômes et sur la question sexuelle. Sans cette croyance, il n'y aurait pas de cure. La quête du sens et le goût pour la vérité de l'analysant vont pouvoir s'exhaler parce qu'il y a le transfert et la parole, laquelle définit justement la place de la vérité. C'est un point majeur parce que si la vérité ne peut être que médite, elle est aussi la sœur de la jouissance interdite et la chère petite sœur de l'impuissance, affirme Lacan. Ce qui veut dire que ça vise le réel. Le déchiffrage en est la voie. Ainsi, après un temps où le sujet est mu par ses découvertes sur l'inconscient, l'analyse va devenir plus pénible. Parler va produire des effets, nourrir le symptôme, créer des turbulences, car si le signifiant fait halte à la jouissance, il en est aussi la cause. Et si l'analyse est une pratique de langage, l'analysant va bientôt saisir qu'elle convoque le corps, un drôle de corps, un corps parlant, qui se manifeste à travers des mots inédits. Il faut ajouter les événements plus ou moins difficiles qui émaillent la vie, imprévus. Ils vont alimenter le sens, rajouter de la souffrance et peut faire durer l'analyse. Enfin, on ne parle pas assez des possibles mises en danger du névrosé pendant la cure, au nom d'une recherche plus ou moins absolue de la vérité, au nom de l'harmonie, au nom de l'amour. Car le névrosé nie le destin fatal du parlant concernant l'amour. Ce qui se dit sur le divan ne va donc pas rester cantonné dans le cabinet de l'analyste. Ça peut se mettre en acte et relancer le sens. Mais s'agit-il que de sens ? Pourquoi l'analysant continue malgré les épreuves ? Cette persévérance rend compte, me semble-t-il, quelque chose qui se dessine à travers ce qu'il s'entend dire et dont le sujet ne peut plus supporter le poids. Il ne veut plus s'entendre dire ce qui insiste et ne veut rien en savoir. En se cognant à ce qui résiste, à ce qui revient toujours à la même place et face aux impasses insistantes, l'analysant rencontre l'impuissance, voire la paralysie, jusqu'à éprouver des affects qui peuvent prendre une tonalité plus ou moins mélancolique. Le sujet cherche maintenant, au plus profond de son être, la cause de ce qui le déchire. À son corps défendant, il ne sait plus quoi faire. Le déchiffrage trouve sa limite, le symptôme fait rage. Soulignons que ce qui incarne l'impuissance, c'est la fonction imaginaire du phallus, sur lequel l'analysant pouvait compter et qui déconsiste. Son revers, le semblant de puissance, bouche une perte, mais pas toute, car les effets parasitaires de ce qui ne se perd pas et qui se manifeste sont aussi liés à l'opération de la division subjective. Ainsi, l'analysant s'empêtre dans sa division et cherche une possible porte de sortie. Il n'a pas tort, puisque son obstination va peut-être lui permettre d'en admettre les effets. Confronté dans la durée à la direction de la cure, variation temporelle des séances, coupure, intervention de l'analyste, silence, l'analysant fréquente de plus en plus ce qui fragmente l'histoire, les mots, le sens, le corps, jusqu'à faire une rencontre inédite avec le langage. En effet, ce qui inaugure la fin de l'analyse, c'est une surprise qui arrête le sens qui est incalculable. Ça, troue le silence, quelque chose s'expulse, laissant l'analysant sans voix. Et pourtant, durant la cure, combien de fois les formations de l'inconscient étaient au rendez-vous ? Mais là, c'est autre chose. Quelque chose opère qui est incompréhensible. Le sujet n'y est pas. Dans l'argument, Marc Strauss met en tension la durée de l'analyse et la condensation produite par la procédure de la passe. J'ajouterais que cette condensation témoigne de ce moment qui cisaille, l'espace sonore et qui provoque un effet de sidération. C'est un moment paradoxal parce que c'est presque rien, mais c'est fulgurant, ce qui contraste en effet avec la durée de l'analyse. Ça va clore l'élucubration qui a été pourtant le moteur de la production de cette surprise. Il a donc fallu tout ce temps pour que le mur renvoie en écho ce que le sujet considère comme son point de limite. Cependant, cela n'implique pas la fin immédiate de la cure. Il faut encore plus ou moins de temps pour avaler ce qui arrive, en prendre acte et en mesurer les effets. L'analyse prend fin à partir d'une ultime interprétation qui fait mouche. Le sujet peut quitter l'objet du transfert. Ainsi, malgré les lectures, les séminaires, ce que l'analysant peut entendre de la fin et de ce passage, il ne peut que l'expérimenter. Et là, il n'y a pas de modèle possible. Je veux souligner que ce moment vif et éphémère s'inscrit dans un mouvement plus large qui signe la fin de la cure. Je dirais que ce mouvement prend naissance quand le sujet identifie son fantasme, lequel ouvre la porte à la limite du sens et à la couleur la plus singulière de ce que le sujet est. Ce qui ne laisse plus le temps de faire des détours du côté de l'amour, ni du côté de l'amour de transfert. Il me semble donc que la fin de l'analyse concentre trois temps, voire trois espaces-temps. Le fantasme, la surprise qui fait coupure et la chute définitive du transfert au sujet supposé savoir. Cette temporalité logique correspondrait-elle à un rythme propre à l'analysant qui n'aurait pas cessé depuis le début de la cure? Mais qu'est-ce qui fait que c'est le dernier tour? Eh bien, cette surprise, c'est la rencontre avec l'horreur de savoir. Là où Freud a buté, Lacan identifie cette rencontre comme déterminante pour le sujet parce que c'est un savoir qui affecte le corps de l'être, écrit Lacan. D'ailleurs, l'horreur ne convoque-t-il pas le frissonnement, le hérissement et donc la peau, le corps? En outre, l'étymologie de l'horreur nous conduit aussi du côté du frisson religieux. L'autre jouissance pourrait-elle être convoquée dans l'horreur de savoir? Quoi qu'il en soit, c'est bien la jouissance qui est au rendez-vous lors de ce point d'arrêt radical, étranger au sujet, qui lui est dévoilé le temps d'un éclair. C'est une jouissance qui ne fait pas lien, hors discours donc, et qui ne peut pas faire rapport dans le corps à corps. Je dirais que l'expérience de fin permet au sujet de prendre acte de ce qu'il a fait des rencontres contingentes avec le langage incarné et avec l'histoire familiale. À partir du moment où le petit humain rencontre le langage, il tombe sous le coup de la castration qui imprime une marque réelle. Rien ne peut dire le rapport sexuel. Mais ces rencontres laissent aussi des stigmates ineffaçables qui ne cessent pas de s'écrire. C'est pourquoi l'analysant dans la traversée du fantasme rencontre quelque chose de sa fiction, de son montage pour faire face à tout ça. Il me semble que l'horreur de savoir se localise dans ce morceau de fin, lequel convoque un savoir sur la jouissance liée au fantasme, où le sujet est convoqué comme objet, et sur une jouissance plus troublante, sans sujet, qui coupe une jouissance énigmatique. L'acte de conclure son analyse est le fruit de cette rencontre avec l'horreur de savoir qui va permettre de composer un peu mieux avec ce qui ne cesse pas de s'écrire, conjugué à l'impossible. La preuve, c'est une guérison étonnante, car passer le mouvement de fin, ça s'apaise, enfin. Ce qui se manifeste par un affect de satisfaction, un allègement éprouvé et durable. Il faut souligner que l'autre surprise de la cure, c'est que le traitement par la parole a pour effet d'entamer la jouissance et de réduire les effets délétères du frisson, mais pas du tout où s'y attend l'analysant. Ce qui a des conséquences sur le symptôme et donc sur la vie du sujet. quelque chose se dégage à partir de ce savoir. S'ouvre un possible pour le sujet. Par exemple, la rencontre avec l'horreur du savoir peut permettre de passer de l'amour adressé au savoir au désir de savoir. La durée des analyses, ces raisons, peut par conséquent se saisir à partir de la visée d'une psychanalyse telle que Lacan la définit. Élever l'impuissance, celle qui rend raison du fantasme, à l'impossibilité logique, celle qui incarne le réel. Mais on comprend bien que la forme, le contenu et les effets de ce passage ne peuvent pas se généraliser. C'est du singulier à chaque fois. Car ce n'est l'horreur de savoir que pour un analysant, chacun rencontrant la sienne, avec ses conséquences imprévisibles. Alors le terme de dompté, utilisé par Freud dans l'analyse sans fin et l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, pourrait se rapporter au langage. Au fond, derrière l'erreur salvatrice du sujet qui demande une analyse, derrière son désir de guérison, ne se cacherait-il pas une autre croyance, dompter le langage, ou plus exactement, dompter ses effets insupportables, en avoir raison pour changer le cours de son histoire, de sa marque, refuser la castration. Voilà pourquoi ça peut durer, parce que finalement, le sujet ne supporte pas bien qu'il n'y ait pas d'explication rationnelle à son symptôme, qui n'est en relation avec rien, sinon avec la contingence. Et son choix de jouissance ne répond qu'au réel de la structure, à la langue qui l'a bercée et au hasard des rencontres de jouissance. Et dans l'après-coup, l'analysant se rend compte du temps qu'il a fallu et du prix à payer pour ne plus chercher les raisons de sa quête. Car il y a quelque chose qui est sans raison, un peu fou. Encore fallait-il l'entrevoir le temps d'un instant. Pour en arriver à cette conclusion, il faut que le dispositif analytique se prête à ce possible événement qui dénoue par la parole ce qui s'est fait par la parole et en préparer le champ. Il faut donc du temps et une manœuvre. Je cite encore Lacan dans un entretien avec Emilia Grandsotto. L'analyste lui indique, à l'analysant, comment procéder et l'aide par des interventions. Des interprétations lui sont fournies qui semblent au premier abord donner sens à ce que l'analysant dit. En réalité, l'interprétation est plus subtile. Elle tend à effacer le sens des choses dont le sujet souffre. L'étymologie de durée, durare, en plus de sa définition relative au temps, fait valoir endurer, tenir bon, et pour l'analysant et pour l'analyste. L'analyste a donc sa responsabilité concernant la durée d'une analyse, mais il n'est responsable que dans la mesure de son savoir-faire, affirme Lacan dans Le Symptôme, c'est-à-dire qu'il ne jouisse pas de la jouissance de Dieu. Au fond, la responsabilité du psychanalyste tiendrait aussi à son expérience d'analysant en lien avec sa propre horreur de savoir. D'ailleurs, l'horreur se retrouve bien chez l'analyste, du côté de l'acte. C'est toujours le réel qui est visé. On peut saisir que l'analyste n'a pas choisi une place commode, puisque jusqu'au bout et à chaque fois, il aura horreur de son acte, parce qu'il s'agit à chaque fois de laisser une place vacante à l'horreur de savoir, de l'analysant, le pousser vers l'horreur et donc vers la sortie. Il faut l'avoir fréquenté et en constater les effets pour supporter cet objectif. Un psychanalyste serait donc celle ou celui qui a fait ce choix parce que quelque chose dans son symptôme rend compte une raison de ce choix et un sans-raison énigmatique. Serait-ce la seule garantie pour que la cure ne soit pas interminable? Ainsi, la durée des analyses, ces raisons, se posent pour nous comme pour Freud, mais nous avons ce que Lacan a élaboré. Et l'intérêt du thème de notre séminaire, c'est qu'il noue les deux protagonistes du dispositif analytique. À qui incombe alors la responsabilité concernant la durée des analyses et donc la fin? La réponse n'est pas univoque. Elle tient bien sûr à l'analyse, comme je l'ai souligné, mais aussi au rapport que l'analyse entretient avec le savoir et tient enfin à l'insondable décision de l'être. La psychanalyse a ses limites. Si Lacan a proposé le dispositif de la passe, c'est pour nous guider vers ce que l'expérience peut nous enseigner d'une psychanalyse. Certains font donc le choix d'en dire quelque chose en offrant cette drôle d'histoire avec un Y et son fin mot matériel. Encore faut-il que ça passe. Le cartel de la passe peut ainsi essayer de cerner un par un ce qu'il en est du psychanalyste, d'une possibilité du psychanalyste, mais au fond, ne s'agirait-il pas de cerner comment une psychanalyse rate le réel en acte, soit comment un sujet n'espère plus l'impossible. C'est d'expérimenter cette limite structurale, à chaque fois et singulière, c'est d'expérimenter cette limite structurale et singulière à chaque fois, ce ratage, que je saisis que la psychanalyse a peut-être chance de répondre autrement. Mais il faut plus que l'expérience, une élaboration renouvelée. Car l'expérience s'oublie, il y a toujours du refoulé et elle ne peut pas tout dire. De plus, s'appuyer sur l'expérience ne veut pas dire en rester captif. Il s'agit de savoir s'en décoller pour ne pas se laisser fasciner par l'événement. La structure, souligne d'ailleurs Lacan, ne s'apprend pas de la pratique. Il y a là, me semble-t-il, une autre phase de la garantie. Pour conclure, le temps est singulier pour chaque sujet et les traces laissées par les rencontres de l'enfance peuvent être ravageuses. Les sujets ne sont pas tous égaux face à ces rencontres, nous le savons. Il est donc logique que la cure dure un certain temps, selon les par-lettres, parce qu'on n'arrive pas comme ça au fin mot de l'histoire. Le chemin est plus ou moins éprouvant. D'ailleurs, les psychanalystes n'en témoignent-ils pas ? Penser la psychanalyse, c'est une façon de continuer autrement. Il y a de l'interminable, car l'inconscient, lui, sait ce qu'il a à faire, il travaille. Et ce qui ne fait pas lien essaie de se loger quelque part. Le fin mot de l'histoire pour l'analysant n'est pas le fin mot de la psychanalyse. Chacun apporte à sa mesure, à son désir, un petit quelque chose à l'histoire de la psychanalyse. L'analyste, quant à lui, essaie de mener à bien une cure, sachant qu'elle a une fin, par un franchissement tout à fait inattendu. Voilà.
Bon, alors je passe tout de suite la parole. Oui. Alors, le titre ici, c'est « Du dit à l'inédit ».
Irène Tuton, pour ceux qui ne la connaissent pas.
Merci. Le thème de ce séminaire, « La durée des analyses, ses raisons », renvoie à une notion essentielle dans notre pratique qui est celle du temps. Freud l'a associée à celle d'inconscient avec sa thèse majeure d'un inconscient qui ne connaît pas le temps. Et Lacan en a proposé une logique qui marque les trois temps d'une cure, le temps de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Il y a même consacré ces deux derniers séminaires le moment de conclure est la topologie et le temps. Preuve que cette notion est restée au centre de ses réflexions. Il me semble que dans ces élaborations, pour l'un et l'autre, Freud et Lacan, il s'agissait de cerner toujours plus ce qu'il en est de la singularité du sujet, soit son rapport au réel. Finir une analyse suppose un acte. En commencer une, également, qui engage la parole d'un sujet, mais aussi son corps, dans une temporalité qui lui échappe. S'il faut du temps pour conclure, l'entrée en analyse, en tant qu'elle convoque le problème de la demande et du désir, peut nécessiter un temps plus ou moins long. les entretiens dits préliminaires offrent ce temps nécessaire à la mise en place de la relation transférentielle dans la cure. Mais qu'est-ce qu'un acte ? Est-ce une décision ? Lacan en a souligné le caractère impossible, à propos de l'acte de l'analyste, associé au réel tout en affirmant son existence. On dit poser un acte, ce qui implique un temps de réflexion, une pensée préalable. Pourtant, l'analyse nous apprend que les coordonnées de tout acte ne se saisissent qu'a posteriori. Il y a lieu alors de comprendre quel est ce savoir qui s'élabore dans l'après-coup. Mon propos au cours de cet exposé sera de faire valoir comment, à partir d'une telle élaboration, et notamment celle du fantasme, un réel peut se dévoiler qui signera un acte, celui de fin d'analyse. Une manière peut-être de mesurer les effets du réel, toujours singulier, dans la durée d'une cure. D'ailleurs, n'est-ce pas le réel qui donne son trait de singularité à la structure du sujet ? Alors, quel est ce savoir dont on fait l'expérience dans l'analyse ? Il peut s'inaugurer d'un « qui suis-je » adressé à l'analyste ou de toute autre question, laissant apparaître que l'analysant en attribue une réponse possible à l'autre avec un grand A, conférant ainsi à ce dernier un statut de sujet supposé savoir. C'est parce que l'analyste peut supporter cette fonction de supposé savoir dans le transfert que la mise en place de ce dispositif permet d'accueillir la parole de l'analysant, de l'amener à dire autrement, que j'écris en deux mots, autre avec un grand A, par le biais de l'association libre. Lacan, après Freud, a souligné la difficulté de cette opération de l'acte de parole et des résistances qu'elle suscite chez le sujet, avec l'idée que le transfert était en soi source de résistance. Mais qu'est-ce qui résiste ? À quoi se heurte le sujet dans le transfert ? Lacan évoque volontiers les différentes feintes dont use l'analyste pour solliciter la vérité du sujet. Je le cite. On la caresse, on l'apprivoise, on veut lui faire la pige. Et pour lui faire la pige, on fait semblant. En somme, c'est ça le sens de l'association libre. On fait semblant de ne pas s'en soucier et de s'en foutre. Comme ça, elle lâchera peut-être le morceau. Voilà le principe. Quelle est cette vérité et quel savoir l'analysant peut-il en dégager ? S'il y a une vérité qui s'élabore tout au long d'une analyse pour le névrosé, c'est celle du fantasme. Étonnant de penser que ce qu'il y a de plus fictif puisse faire vérité. Lacan ne s'y est pas trompé quand il a souligné le caractère menteur de la vérité. Mais comment cette question du fantasme prend-elle forme dans le cadre d'une cure ? Là intervient celle de la temporalité. Je dirais que la construction du fantasme est contemporaine du déroulement de l'analyse. Et il me semble qu'il n'est possible d'en saisir la logique qu'à la fin de la cure, dans la mesure où cette construction peut avoir un impact sur le moment de conclure. Contrairement aux symptômes, le fantasme est plus difficilement identifiable dans une analyse. Un temps plus ou moins long est nécessaire pour qu'il prenne forme. Lacan remarque qu'il est quelque chose de clos, à la signification fermée. Freud, dans son texte de 1919, « Un enfant est battu », note une certaine réticence de ses patients à le livrer, son caractère inavouable. À partir d'une phrase qu'il décline, Freud présente des états successifs du fantasme au cours desquels quelque chose change et quelque chose demeure constant. Cela introduit une temporalité dans la cure, un battement entre ce que l'analysant tente d'attraper différemment et ce qui se répète. le terme de fiction que Lacan associe à celui de fantasme évoque cette situation. Le sujet reste fixé à sa jouissance et néanmoins, l'expérience analytique l'entame à des effets singuliers, incalculables, tels ce X de fiction, cette lettre algébrique désignant l'inconnu. Tout au long de l'analyse, le fantasme peut se faire discret et insistant. Il acquiert une certaine familiarité parce que l'on y revient et pourtant demeure énigmatique car l'on tente toujours de l'expliquer un peu plus. Le sujet y trouve une certaine assurance, mais il renvoie également au doute, à cette vérité qui ne peut être que médite. Cela lui confère un statut équivoque. Il est cet autre avec un grand A à disposition, mais aussi bien ce sur quoi le sujet bute, dont il ne veut, ne peut rien savoir. Le transfert, source de résistance, évoqué précédemment, se retrouve dans le fantasme. Si Freud rend compte de la part symbolique et imaginaire du fantasme, dans le texte déjà cité, Lacan, avec son apport de l'objet A, y révèle son versant de réel, mettant ainsi l'accent sur l'impossible dans le rapport du sujet avec son désir. Le désir émanque dans son essence. Il n'y a pas d'objet dont le désir se satisfasse, même s'il y a des objets qui sont cause du désir. Je cite Lacan dans le séminaire « La logique du fantasme ». À l'articulation signifiante développée par Freud dans le fantasme « Un enfant est battu », Lacan, avec son mathème S barré poinçon petit a, ajoute l'objet A, soit ici le regard. Cet objet de la pulsion qu'est le regard a un statut particulier dans le déroulement et le dénouement d'une cure, même si tout fantasme ne se réduit pas à un seul objet pulsionnel. Dans un premier temps, conjoint à l'acte de parole, il est un des supports des séances préliminaires qui se passent en face à face. Puis il erre, il vole, impossible à éliminer, au-dessus du fantasme, comme le note Lacan dans son séminaire « La logique du fantasme ». Il est hors corps, comme le sont les objets A. Notion complexe si l'on considère que, d'une part, ces objets sont des lieux potentiels de jouissance du sujet et que, d'autre part, il n'y a de jouissance que du corps. Lacan les situe au niveau des bords du corps, les définissant comme la jonction la plus sûre avec celui-ci. Néanmoins, c'est dans le champ de l'autre avec un grand A que le sujet a à en faire la demande pour autant où c'est là qu'il se constitue. À cet égard, l'objet A du regard dans le fantasme illustre bien, me semble-t-il, cette position ambiguë de bord du sujet. En effet, l'analysant peut se situer à l'intérieur du scénario qu'il décrit, mais il n'en est pas moins spectateur, fasciné par celui-ci, ce qui lui confère ainsi une place double, divisée, autre avec un grand A à lui-même. En outre, c'est dans le cadre de l'analyse et donc du transfert que la construction du fantasme opère, c'est-à-dire dans l'adresse à cet autre avec un grand A supposé savoir qu'est l'analyste. D'autre part, on perçoit dans cette esquissée du sujet et sa représentation par l'objet A du regard une certaine inconsistance, évanescence. En effet, le regard peut se détourner et le sujet disparaître de son champ. Or, comme je l'ai évoqué, Lacan souligne aussi que le caractère inéliminable de cet objet A du regard dans le fantasme est donc au cours de l'analyse. Lacan souligne aussi le caractère inéliminable de cet objet A du regard dans le fantasme et donc au cours de l'analyse. Cela renvoie à ce qui, chez le sujet, ne change pas, se répète, voire fait symptôme, fixation de jouissance et dont il se plaint. On peut dire alors que la répétition offre un cadre à ce qui, par ailleurs du sujet, de son être, est inconsistant. L'élaboration du fantasme dans la cure est de cet ordre-là. On y constate son articulation avec le symptôme et l'on saisit le rôle central de la répétition dans cette expérience. Dans le discours du sujet, la répétition est ce qui le relance et son point de butée. Un signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant, là je cite Lacan, donc ça ne mord sur rien, ça ne constitue absolument rien, ça s'accommode d'une absence absolue de Dasein, d'être, remarque Lacan dans le séminaire La logique du fantasme. Et pourtant, quel autre choix a le sujet puisqu'il s'engendre de ce processus même, si ce n'est de sortir de la chaîne signifiante, ce qui peut se produire et avoir des conséquences plus ou moins graves. S'y maintenir dans la chaîne, c'est se situer dans ce rapport entre S1 et S2, cette ligne de bord du désir représentée par l'objet A de la pulsion, petit a de la pulsion, dans le fantasme, qui masque ce qui est énigmatique, l'impossible à être du sujet, soit le réel. Poursuivre une analyse, c'est garder ce cap. C'est donner du sens au signifiant en l'adressant à l'autre avec un grand A, à l'autre supposé en savoir un bout sur la question. Parce que l'on n'a pas idée de cette absence absolue de Dasein et nie donc que le fantasme ne la masque. L'analysant peut s'y épuiser. Or, comme je l'ai noté précédemment, si celui-ci reste fixé à sa jouissance, l'acte de parole la creuse, l'entame. Prendre la mesure des limites de la jouissance, propre à chacun, n'est pas sans effet sur la vie d'un sujet, et certains décident de s'en tenir là, ce qui est une option de fin d'analyse. La question se pose ici. Jusqu'où une analyse peut-elle être menée? Force est de constater que l'on ne peut le savoir qu'a posteriori. C'est en quelque sorte la preuve par la fin. À ce point, cependant, comment l'analyste a lui-même traversé sa propre cure et ce qu'il en a saisi de son rapport à l'objet de la pulsion, c'est-à-dire à son désir, dans son rapport à l'autre avec un grand A, est essentiel. S'il a fait l'expérience de l'objet A séparateur, petit A séparateur de cet idéal du grand autre, par la traversée du fantasme radical, là je cite Lacan, traversée du fantasme radical dans les quatre concepts, c'est à cette condition qu'une analyse aura chance, car ce n'est malgré tout pas garanti, d'être orientée par le réel, voire de le dévoiler, inaugurant une autre forme de moment de conclure. Qu'en est-il d'une telle expérience de fin quand elle se produit? Ce que l'on peut souligner, c'est l'effet de surprise qu'elle suscite chez l'analysant, son caractère inédit. Elle ne s'anticipe pas. Elle se déroule en plusieurs étapes, selon une sorte de condensé formel des trois temps de la cure, le temps de voir, celui de comprendre et le moment de conclure. Elle peut être initiée par une interprétation énigmatique pour le sujet et qui remet en cause sa position dans le fantasme, déplaçant l'objet A du regard vers un point de vue radicalement autre, avec un grand A. De l'ordre de l'unheimlich freudien, le privant ainsi de l'assurance qu'il avait prise jusqu'alors dans le fantasme en identifiant celui-ci. À cet égard, notons que les scénarios, que le ou les scénarios développés dans le fantasme ne sont pas anodins. Le masque est à la mesure de la position structurale du sujet, des signifiants de son histoire, auxquels il s'est identifié et qui le constituent. L'interprétation à l'origine du processus de fin concerne le ou les scénarios du fantasme et donc ses signifiants. On peut alors se demander si le ou les signifiants hors sens que peut produire la fin de l'analyse, pour hors sens qu'ils soient, ne sont pas liés à ce ou ces scénarios et ses signifiants, en représentant en quelque sorte l'envers, la part d'inquiétante étrangeté, inconsciente, absolument incompréhensible pour le sujet, l'impossible du rapport sexuel auquel il se heurte, soit son trait de réel. Que le langage qui bute sur l'impossible du rapport sexuel soit un fait de structure est une chose. Comme il a été noté, l'analysant en fait l'expérience par le biais de la répétition et les limites de sa jouissance. Autre chose est de repérer la singularité de cette structure, de spécifier l'impossible dont il s'agit. Il me semble que l'identification du fantasme, qui inaugure la fin de l'analyse, peut permettre ce repérage, car elle opère sur l'objet pulsionnel du regard et son déplacement, dévoilant le trait de réel du sujet, soit sa singularité. Il n'y a là aucune décision de la part de l'analysant, mais un effet de surprise pouvant, comme je l'ai déjà souligné, être lié à une interprétation. C'est le caractère énigmatique de celle-ci qui fait point de rupture dans le cours d'une analyse, car le sujet ne s'y reconnaît pas. Il est radicalement autre avec un grand A lui-même. Ce temps de voir, ou plutôt d'entre-apercevoir, ce dont le sujet est captif, rencontre l'horreur de savoir. Elle concerne le sens énigmatique de l'interprétation, et il me semble que là peuvent se situer les signifiants hors sens. Ils sont produits par l'interprétation, ils sont l'interprétation. Le sujet se trouve dans l'incapacité de donner un sens à ces signifiants spécifiques. Cette expérience est singulière, car inédite et énigmatique. Elle porte sur un savoir qui échappe au sujet, lié à un impossible qui lui est propre. Un temps peut être nécessaire pour prendre la mesure du moment de conclure qui est pressenti. L'analysant peut se sentir partagé entre l'heureuse perspective d'un terme possible de la cure et un affect d'angoisse. En effet, avoir touché à l'assise du fantasme, c'est avoir fait vaciller le semblant d'être que représente ce masque et la garantie de l'autre avec un grand A qu'il s'était constitué à son insu. Comment alors envisager ce manque de garantie? Le symptôme peut en être une alternative. Cela ne signifie pas que le fantasme soit exclu de la vie du sujet, ni que celui-ci soit tout à fait guéri de l'idéal du grand autre. En revanche, l'inédit de cette expérience fait trace, inscrit une singularité en creux, car empreinte d'un certain désêtre qui s'avère non discutable. Il n'y a plus rien à en dire. Le moment de conclure se présente en acte, décidé par le sujet. En conclusion, quelques remarques, réflexions sur ce qu'il advient de la pulsion qui apparaît comme un reste à l'issue de cette expérience. Qu'en est-il alors du désir pour un sujet? Je mettrai l'accent sur celui du psychanalyste. Selon Lacan, il est issu du fantasme du psychanalyste, de son traitement singulier dans sa propre analyse. Il le définit comme ce qu'il y a de plus opaque, de plus fermé, de plus autiste dans sa parole. C'est à partir de cette singularité absolue que l'analyste doit opérer. On comprend que la pulsion, dans le dispositif analytique, ne fasse pas médiation, instaure une distance aussi bien entre l'analyste et l'analysant, ce qui paraît souhaitable, mais également entre l'analyste et son acte, et qui renvoie à sa propre horreur de savoir. Avoir pris la mesure du rôle de manque de l'objet petit a, de son semblant d'être, peut permettre de supporter celle-ci, cette horreur de savoir. Hors de ce dispositif de la cure, qu'en est-il du désir du psychanalyste? Peut-il faire lien social? Les difficultés que rencontrent les différentes associations, écoles de psychanalyse, peuvent laisser perplexe. Or, si l'on a l'idée du rôle qui vient d'être évoqué de l'objet A, que Lacan traduit aussi bien par « le dialogue est une duperie », une place pour ce désir est envisageable. Dans une école tenant compte du réel enjeu, soit orientée par la passe. Dans cette éventualité, savoir y faire avec son, ses symptômes, ouvre à une telle possibilité. Celle-ci peut être vécue comme un risque, cette possibilité, car elle convoque ce dont le sujet ne veut, ne peut rien savoir de son désir, l'évanescence de son être, en somme, qui n'est que supposé savoir. Cependant, si le réel qui lui fut dévoilé dans son analyse ne peut se dire, il lui reste la possibilité de l'écrire. Chance à lui de s'en saisir. »